Il est 23h sur RFI, 21h en temps universel. Bienvenue.
Fabrice Le Grillet.
La Suède frappée par une nouvelle fusillade ce mardi. Bilan 3 morts. Les félicitations de Washington et la satisfaction des Européens après la victoire de Mark Carney, Premier ministre canadien. Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Retour aussi sur l'énorme panne qui a touché la péninsule ibérique hier. Les choses sont revenues à la normale, mais des enquêtes sont en cours pour en déterminer l'origine. Comment un réseau entier a-t-il pu être autant impacté? Élément de réponse dans un instant. Et en France, la manifestation des médecins opposée à la loi Garot qui vise à réguler leur installation. Mais d'abord du football, et vous venez de la suivre en direct et en intégralité sur RFI, la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre Arsenal et le PSG. Et c'est donc la victoire pour Paris, score final 1-0, but de Dembélé pour Paris peu après le coup d'envoi. Match retour mercredi prochain. L'autre demi-finale aller de cette Ligue des Champions, ce sera mercredi soir avec le FC Barcelone face à l'Inter Milan.
RFI, Radio France Internationale.
En Suède, 3 personnes ont été tuées ce mardi lors d'une fusillade dans la ville d'Uppsala, à une 60aine de kilomètres au nord de Stockholm. Sur place, la police évoque un individu masqué sur un scooter. Des vérifications sont en cours. Le drame se serait produit dans un salon de coiffure. Des témoins évoquent plusieurs coups de feu. Les États-Unis félicitent Mark Carney pour sa victoire aux élections législatives canadiennes. Déclaration sobre de la part de la Maison-Blanche ce soir. Après une campagne dominée par le rejet des menaces de Donald Trump, l'ancienne relation avec les États-Unis est terminée. C'est la phrase emblématique prononcée par Mark Carney lors de son discours de victoire. Une bonne nouvelle pour l'Union européenne. Le Premier ministre canadien en tire comme conséquence le besoin de déboucher, en particulier en Europe. L'UE a déjà commencé à se réjouir de ce qu'elle voit comme une relation confortée. Emmanuel Macron parle de la perspective de se serrer les coudes et la présidente de la Commission européenne abonde à Bruxelles pour RFI, Pierre Benazet.
Ursula von der Leyen se félicite de la victoire de Mark Carney. La présidente de la Commission européenne y voit un renforcement à venir du lien entre l'UE et le Canada. Elle y voit surtout la perspective de promouvoir le multilatéralisme et le commerce. Pour l'Union européenne, l'agressivité de Donald Trump à l'encontre du Canada a poussé le candidat qui est le plus favorable au lien avec l'Europe. Non seulement Mark Carney a été gouverneur de la Banque d'Angleterre, mais il n'a pas caché à l'époque ses craintes liées au Brexit. Surtout, depuis qu'il a pris la succession de Justin Trudeau en mars, il a rompu avec la tradition des premiers ministres canadiens qui vont d'habitude à Washington pour leur premier voyage officiel. Non seulement il ne s'y est toujours pas rendu, mais il a préféré un déplacement à Paris et à Londres. Pour l'Union européenne, qui veut renforcer et multiplier ses partenariats économiques à travers le monde, c'est peut-être le retour en grâce de l'accord économique et commercial global avec le Canada, connu aussi avec l'acronyme anglais CETA. Il n'est appliqué que de manière partielle, puisqu'un tiers des pays de l'UE ne l'ont toujours pas ratifié. On n'en est pas encore, en revanche, ici, à envisager sérieusement l'idée émise outre-Atlantique d'une adhésion du Canada à l'Union européenne. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et toujours à propos des législatives canadiennes, victoire certes de Mark Carney, mais les libéraux ne semblent pas être parvenus à obtenir la majorité absolue au Parlement. Le Premier ministre indien Narendra Modi donne son feu vert à l'armée pour une riposte à l'attentat commis il y a une semaine. Attentat dont la responsabilité est imputée au Pakistan voisin. L'attaque contre des touristes avait fait 26 morts mardi dernier dans la ville de Pahalgam, dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde. C'est la plus meurtrière visant des civils depuis plus de 20 ans. Le Pakistan a démenti tout un implication, réclame une enquête neutre. Washington appelle à la désescalade. Plus d'une journée après la coupure généralisée du réseau électrique dans la péninsule ibérique, le courant est revenu, mais les causes de la panne sont toujours inconnues. Pourtant écartée par le gestionnaire espagnol du réseau d'électricité, la piste d'une cyberattaque n'est cependant pas exclue par la justice du pays, qui a ouvert une enquête. C'est le cas aussi du gouvernement avec la création d'une commission d'enquête. Aucune hypothèse ne sera écartée. C'est ce que dit l'exécutif, et plusieurs facteurs peuvent entraîner un tel blackout, Simon Rosé.
Un réseau électrique, c'est un flux qui part des producteurs vers les consommateurs et ce sont ces derniers qui dictent le rythme. Le réseau doit donc pouvoir absorber en temps réel toutes leurs demandes et c'est la fréquence électrique qui témoigne de la bonne santé de l'ensemble. 50 Hz en Europe, si elle baisse, c'est qu'il n'y a pas assez de production. Si elle monte, c'est que les centrales envoient trop de jus. Le blackout espagnol n'est pas sans rappeler un événement similaire en Italie en 2003. À la suite d'un incident, une ligne haute tension se coupe du réseau. Pour répondre à la demande, plus de puissance est alors redirigée vers d'autres lignes. Mais celle-ci n'absorbe pas le choc, la fréquence baisse. Par mesure de sécurité, l'Italie se déconnecte du réseau européen et perd instantanément un tiers de sa production. la fréquence diminue à 48,8 Hz. À partir de ce seuil, pour revenir à l'équilibre, une région du réseau italien est plongée dans le noir. À chaque baisse supplémentaire de 0,1 Hz, 14 paliers tombent ainsi. Et pour se préserver, toutes les centrales du pays s'isolent. C'est la panne générale, 2 minutes 30 seulement après le premier événement. La cause, un arbre. Il avait provoqué un arc électrique en touchant une ligne à haute tension.
Simon Rosé pour RFI. Le monde doit faire cesser la catastrophe dans la bande de Gaza, où Israël empêche l'acheminement de l'aide internationale. Déclaration du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme ce mardi. Volker Türk appelle à ce que de tels comportements cessent immédiatement, mais aussi à rechercher et à traduire en justice les auteurs de ces actes. Il dénonce par ailleurs la poursuite de frappes israéliennes sur certaines zones de la bande de Gaza où sont abrités des civils. En France, ce n'est pas une problématique nouvelle. Non seulement il n'y a pas assez de médecins, mais ils sont aussi très mal répartis. 8 millions de Français vivent aujourd'hui dans ce que l'on appelle un désert médical, sans médecin généraliste attitré. Pour y remédier, des députés ont adopté le 2 avril dernier un article de la loi Garot visant à réguler l'installation des médecins. Les jeunes praticiens seraient ainsi obligés de s'installer dans des territoires sous-dotés. Il n'en fallait pas plus pour provoquer une fronde, une grève et une manifestation d'internes et de médecins qui a eu lieu ce mardi, place du Panthéon. Reportage Laurence Théo.
Les ballons gonflables des syndicats flottent dans l'air chaud en ce début d'après-midi et sur la place du Panthéon, c'est un flot de blouses blanches. Marie Bonneau est interne en chirurgie digestive à Poitiers, dans le centre de la France.
Le problème est vraiment celui de la pénurie médicale globale sur tout le territoire, que ce soit en ville, en libéral ou dans les centres hospitaliers d'ailleurs. Là, on a une loi qui vise à réguler l'installation et si on remplit d'autres territoires pour en déshabiller d'autres qui sont déjà en grand souci d'accès aux soins, ça transfère le problème.
Pour Patricia Lefebvre, médecin généraliste, il faut favoriser les installations où qu'elles soient.
Si on était hyper nombreux, on serait dans la concurrence, mais aujourd'hui, il n'y a pas idée d'un médecin qui va aller s'installer dans un endroit où il y a pléthore de médecins et qui va avoir du mal à faire sa patientèle, alors que dans 87%, il y a pénurie de médecins, il suffit de s'installer dans tous ces endroits-là et on vit très facilement de son travail.
Martin est étudiant en médecine, pour lui, il faut faire confiance aux médecins.
En imposant des conditions comme ça, il y a plus un risque que les étudiants aillent moins vers le libéral et fassent plus d'hospitaliers en fait, ou de cliniques privées. Ça va aggraver le problème en fait.
Sur une pancarte en carton, faites comme les patients, consultez-nous, cela s'adresse au gouvernement.
En France, toujours 4 ans de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Voilà ce qui a été requis ce mardi contre l'ex-premier ministre François Fillon. Il s'agit de l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. La décision sera rendue le 17 juin. Allez, un peu de hauteur. Une nouvelle constellation vient de rejoindre le ciel. Amazon vient de déployer 27 satellites, les premiers d'une longue série intitulée Kuiper. Le projet fournira une connexion Internet, mais il n'est pas seul dans la course. Starlink, le réseau d'Elon Musk propose déjà un service similaire. L'IA Roisin Pilot, malgré le contexte géopolitique, est-ce que Kuiper pourrait le concurrencer ?
Pour l'instant, difficile d'anticiper. Kuiper n'en est qu'à ses débuts. À terme, le réseau devrait compter 3200 satellites, dont la moitié mise en orbite d'ici l'année prochaine. Paul Warrer est responsable du programme Espace à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
L'intérêt qu'il peut y avoir avec Kuiper, d'abord, c'est que ça fait de la concurrence. Donc, il est possible que ça tire les prix vers le bas.
Le deuxième aspect, c'est tout l'intérêt de la connectivité avec l'infrastructure Amazon et notamment toute l'infrastructure cloud, en plus d'avoir accès à des services de connectivité par satellite.
De son côté, Starlink est déjà bien implanté, près de 7000 satellites, mais ce réseau dépend de l'entreprise SpaceX et son principal défaut, c'est peut-être son propriétaire.
Il appartient à Elon Musk, qui a un contrôle très très important sur le système, qui est capable de le couper à peu près à n'importe quel moment.
Des armées notamment qui souhaiteraient s'équiper de connectivité par satellite hésitent très fortement à utiliser la solution Starlink, simplement du fait de la dépendance que ça créerait envers un acteur jugé comme assez peu fiable, comme Elon Musk.
Ces derniers mois, Starlink est régulièrement attaqué. La Russie et la Chine cherchent à brouiller les signaux de ces satellites. Et d'après Paul Warrer, le réseau Kuiper pourrait connaître le même sort.
L'IA Roisin Pilot du service économie de RFI. Et si vous venez de nous rejoindre à l'instant dans ce journal, je vous rappelle quand même le titre sport de la soirée. La demi-finale aller de la Ligue des Champions qui opposait Arsenal au Paris Saint-Germain. Demi-finale aller remportée par Paris. Le score final 1-0. But de Dembélé juste après le coup d'envoi. Voilà pour ce journal sur RFI.